Alors, bonjour Laurent, je suis vraiment content de te voir aujourd'hui puisqu'en fait, j'ai eu ton livre entre les mains, le dernier livre de la série qui s'appelle « Notre empreinte sur Terre, des cartes et des infographies pour comprendre l'Anthropocène ». Alors, je trouve que c'est vraiment un bouquin qui est intéressant puisqu'en fait, il y a vraiment cet aspect visuel et moi, je dis toujours à mes collègues, l'homme est un animal visuel avant tout parce qu'ils disent « ouais, mais il y a l'odeur, il y a le toucher et tout ça ». Mais pour moi, en fait, l'être humain, c'est quelqu'un qui voit avant tout. Et c'est vrai que de voir les choses, c'est quelque chose qui permet vraiment d'avoir tout de suite un bon aperçu de ce qui se passe sur les différentes situations avec des graphiques qui sont vraiment parfois assez étonnants, comme celui où on voit le poids de l'humanité sur Terre avec cette petite balance. Je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais je la mettrai après en vrai. Donc on voit la balance avec tout ce qui est le poids de l'humanité, 1,11 gigatonnes, et la masse anthropique qui fait quasiment même plus que ça. Donc on se dit, mais waouh, c'est fou de pouvoir se le représenter comme ça. En tout cas, j'aime beaucoup ton ouvrage, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter?
Merci Frédéric, oui, je vais me présenter. Je tiens à signaler que tu es le premier à m'interviewer sur la sortie de cet ouvrage parce que par rapport à l'heure où nous parlons, il sera en librairie dans 2 jours en fait. Du coup, me présenter. Alors à la base, je suis journaliste scientifique, plutôt sciences humaines, notamment en histoire, histoire globale, histoire environnementale. Et puis depuis une dizaine d'années, je fais des livres, des essais, je dirige des livres collectifs en histoire globale, on va dire, qui est une forme d'histoire à grande échelle. Cet atlas, il est venu du fait qu'un cartographe Perrin Remonté est venu me voir lors d'un salon il y a quelques temps et il m'a dit ça serait bien de faire un atlas de l'Anthropocène puisque il y a un trou dans la raquette, bien sûr, François Gémen en a fait un, mais c'est pas totalement un atlas, il y a beaucoup plus d'infographiques de cartes. Donc Perrin rêvait vraiment en tant que cartographe de mettre des cartes un peu partout. Il y a aussi des infographies, comme tu l'as fait remarquer. Du coup, on a appelé ça « Notre empreinte sur Terre ». Armand Collin a adopté le projet et on s'est lancé. On l'a fait assez vite, en fait, en pratique, parce qu'on était passionnés par le sujet. On avait pas mal de billes déjà dessus. Ça fait longtemps qu'on surveille. J'ai déjà coécrit un livre antérieur sur l'Anthropocène avec Nathanaël Vallenhorst qui s'appelait « Vortex, faire face à l'Anthropocène ». Donc, c'est un sujet dont j'étais familier. Il n'empêche qu'il reste assez impressionnant, terrifiant par moments. Enfin, voilà. La façon dont nous avons transformé toute la Terre sur des temporalités très différentes suivant les éléments considérés. Ça peut être très, très long dans le temps. Ça peut être très court. Ça peut être maintenant. Ça peut être dans un futur très proche. Voilà. Mais essayer de faire un bilan de la façon dont nous modifions notre planète. C'était l'objectif du livre.
C'est vrai que la fin, c'est de la page 133 à grosso modo 157, on va dire une vingtaine de pages, une vingtaine de pages sur le futur. Et c'est ça qui est intéressant, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Et c'est ce que j'aime bien dire, c'est que le passé doit nous aider à anticiper le futur, même si j'ai pas l'impression qu'on a bien compris tout ce qu'on a fait comme erreur et quelles ont été les conséquences par le passé.
On peut comprendre beaucoup de choses, en fait. Je rebondis sur ton idée que nous sommes très visuels. En fait, l'évolution a fait de nous, par hasard, un animal extrêmement visuel, au point que les yeux prennent en importance par rapport à nos cousins primates sur beaucoup de choses. Déjà, les primates, la plupart sont des frugivores, nous descendons d'un frugivore, et donc on distingue les couleurs, ce qui est un peu fondamental dans le règne animal, parce qu'on devait distinguer les fruits mûrs des fruits pas mûrs à l'origine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a appris avec ces yeux-là à repérer de quoi manger, mais qui ne soient pas des fruits. Enfin, ça peut être des animaux qu'on chassait, ça peut être d'autres végétaux, etc. Et du coup, les yeux se sont vraiment agrandis, la partie du cerveau dédiée aux yeux s'est agrandie. Comme on est devenu omnivore, ça nous a permis d'avoir des plus petites dents, de rétrécir notre mâchoire. Comme on est devenu bipède et qu'on courait beaucoup à l'origine, notre nez s'est allongé. Donc en fait, le simple fait qu'on soit un être visuel, ça a changé complètement notre morphologie. Voilà, ça c'est un des apports possibles de l'histoire, notamment de l'histoire de l'évolution, pour montrer pourquoi on est comme ça et pourquoi on a aussi certaines maladies liées à ces processus évolutifs.
Ouais, mais c'est vrai que beaucoup de choses nécessitent d'avoir un petit visuel. Moi, quand je travaille en entreprise, souvent tout le monde me dit « mais raccourcis tes slides, fais une image, fais plutôt une icône ». Et comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et dans ton livre que tu as écrit avec Perrin Remonté, c'est vrai que là, tout de suite, on voit directement le résultat de ce que nous avons réalisé sur Terre.
Et d'ailleurs, pour toi, on exploite 10 millions d'années d'évolution du cortex vers les images.
Exactement. Alors justement, ce livre, pour toi, c'est un cri d'alarme. C'est assez intéressant parce que on l'a dit et quand on a échangé un petit peu en amont de cette interview, l'histoire nous a quand même montré par le passé que les changements climatiques avaient mis à genoux, voire détruit totalement des civilisations. On parle des Khmers avec tout ce qui est les inondations, enfin les inondations, une civilisation qui était vraiment basée sur l'eau.
La maîtrise de l'hydraulique, oui.
Exactement. Nazca qui a surexploité tout ce qui était ressources, arbres, etc., qui a transformé leur pays en un désert. Les Mayas avec les changements climatiques qui ont transformé des cités qui étaient les plus peuplées de l'époque, qui ont été abandonnés. Pourquoi en fait on réagit pas? Pourquoi on n'arrive pas à se dire waouh, c'est déjà arrivé par le passé, des civilisations qui étaient les plus avancées de la Terre ont été détruites complètement. Pourquoi actuellement, aujourd'hui, il faut sortir ce livre pour essayer de faire changer les choses?
Alors oui, il y aurait peut-être des nuances à apporter sur certaines de ces civilisations. Nazca a été aussi victime d'une évolution du phénomène El Niño qui a raréfié les poissons sur lesquels reposait l'alimentation et le commerce de cette civilisation et qui les a contraints à gérer différemment leur milieu. Mais c'était d'excellents ingénieurs hydrauliques, ils allaient chercher l'eau profondément, ils avaient des canaux, bon bref. Passons. Pour les Mayas, on peut aussi se poser la question, est-ce un effondrement de civilisation? Parce que nous, on regarde archéologues, et les archéologues n'aiment rien tant, et les touristes, que les grands monuments, les grandes pyramides. Donc, c'était quoi la société maya, des cités-états mayas? C'était un centre cultuel, en général une grande pyramide, plus des constructions en dur dans lesquelles vivait l'élite, et puis tout autour des jardins, des gens qui vivaient dans les cabanes, qui nourrissaient l'élite avec du maïs, etc. Le changement climatique a certes mis à mal ce modèle en réduisant la capacité à produire du maïs et les plantes associées de manière très presque industrielle, on va dire, de manière à nourrir une grosse population. Et donc, ils ont abandonné leur modèle de cité, ils ont abandonné les cités pour revenir à ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'agroécologie. Ils ont relaissé pousser les arbres pour rendre de la fertilité au sol et ils ont continué à vivre dans les forêts au point que les civilisations mayas, pour une civilisation qui supposait s'être effondrée il y a 12 siècles, il en reste 26 millions quand même aujourd'hui en Amérique centrale et notamment au Mexique. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'effondrement. C'est un peu comme si nous, on abandonnait nos villes aujourd'hui, toutes nos technologies, nos beaux bâtiments, et qu'on aille vivre à la campagne dans des cahutes, mais peut-être serait-on plus heureux en cultivant nous-mêmes notre lopin de terre. Qui sait? Voilà. Donc, c'est subjectif la notion d'effondrement civilisationnel. En revanche, ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est ce qui peut se passer avec un réchauffement très très rapide, comme celui que nous connaissons, que nous avons enclenché, qui lui risque d'être désastreux. Dans le passé, les sociétés étaient extrêmement vulnérables au changement climatique pour une simple et bonne raison. L'essentiel de la population travaillait à nourrir le reste. C'était des paysans, ils étaient taxés, ils étaient la base même de la richesse. C'est ce qu'on appelle pour les grandes civilisations des empires agraires. Et on avait du mal à faire du commerce longue distance, du blé, du riz et autres céréales, qui étaient la base de l'alimentation. Et du coup, un bon coup de froid, pas de récolte pendant une dizaine d'années, ça arrive assez souvent, au début du XVIIe siècle, par exemple, on ne récolte quasiment rien en Turquie et en Russie pendant une dizaine d'années à cause d'une grosse éruption volcanique qui provoque un refroidissement. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des soulèvements, des guerres, des atrocités en tout genre. Et effectivement, les civilisations vacillent ou s'effondrent quand elles ne sont pas très solides. Et ça, on peut écrire l'histoire de Chine avec ce genre. Les renversements de dynasties sont généralement accompagnés d'événements climatiques extrêmes, de non-récoltes pendant plusieurs années, voire une décennie entière. Et en dépit des réserves de grains accumulées par les dynasties, ça ne suffisait pas à passer ces événements-là et les dynasties étaient remplacées par d'autres. Voilà. Nous allons avoir la même chose en pire et en beaucoup plus rapide, sauf que tout notre modèle de développement, il a reposé à partir du XIXe siècle sur la capacité de l'Europe à extraire des ressources du monde entier. Donc nous, on est sortis du cycle des famines au XVIIe, XVIIIe siècle en ayant la capacité par nos bateaux, par nos structures de drainer comment dire, des ressources du monde entier. Par exemple, au XIXe siècle, l'Inde est en proie à des famines énormes, ce qui n'empêche pas, par le jeu du marché qu'ont instauré les colons britanniques, de nourrir la métropole avec du blé produit en Inde, alors même qu'il y a des millions de morts de faim en Inde à ce moment-là, toujours à la faveur d'événements El Niño. Et conséquemment, aujourd'hui, on est un peu dans cette course-là, c'est-à-dire notre industrie agroalimentaire est capable de produire énormément. Pour nourrir largement les 8 milliards de personnes, on perd à peu près un tiers de la nourriture entre les différents process. On perd un tiers de la nourriture qu'on produit parce que la règle de base de la nature, c'est de toute façon d'être prolifique, de produire énormément. Donc, on peut nourrir l'humanité. C'est une question de logistique aujourd'hui et surtout de politique. Si des gens ne mangent pas à leur faim, c'est parce que soit on bloque l'accès à la nourriture, c'est le cas de situations conflictuelles, soit on ne se donne pas la peine de les nourrir. C'est les populations pauvres certain nombre de pays. Le problème, c'est que ça, cette prospérité-là, elle n'a qu'un temps et elle risque fort, si le changement climatique s'accroît, d'être mise en péril. Et là, il faudra effectivement arbitrer, choisir et faire intervenir plus le politique dans ces questions-là. Et conséquemment, un ouvrage comme celui que je produis là, c'est un peu pour avertir que effectivement il va y avoir des tensions sur l'alimentaire, entre autres sur les terres arables, sur les choses comme ça. Elles y sont déjà, les tensions, on investit dessus. Il y a de véritables guerres ou des stratégies d'investissement, comme la Chine qui investit dans les Chines. Voilà, en Afrique, sachant que les États-Unis, ça fait longtemps que les fonds de pension achètent aussi des terres en Afrique. Hein. Il faut relativiser. La Chine n'est pas le seul prédateur à lorgner sur l'Afrique. Et nous-mêmes, nous venons nous faire déloger par les Russes, en pratique, côté français de l'Afrique de l'Ouest. Bref, tout ça permet aussi de comprendre les tensions sur les terres, les tensions sur la nourriture, permettent aussi de comprendre les enjeux géopolitiques de notre monde, parce que les dirigeants sont généralement avertis et conscients de ces risques-là, et ils prennent des mesures pour pallier. Pas forcément les mesures qu'on aurait prises nous en tant que citoyens du monde, je vais dire, parce que souvent on parle de générosité, on parle de partage. En pratique, la plupart des stratégies des États riches et privilégiés, nous sommes dans un État riche et privilégié, quoi qu'on en pense, ne sont pas forcément très morales. C'est aussi ça permet de le savoir.
Donald Trump, je trouve, est un excellent exemple. Et je trouve que c'est vraiment le seul intérêt, enfin, pour moi, le gros intérêt de Donald Trump, c'est qu'il n'y a pas de mascarade, il n'y a pas de faux semblants. C'est OK, le Canada, mais on veut le Canada. OK, on veut être les leaders, on veut vous bloquer. Donc, on met 25% de droits de douane. On veut bloquer les Chinois. Donc, si vous voulez produire, vous prenez. C'est là que ça monte. Que le capitalisme actuel est vraiment une guerre en fait cachée en fait, et que les Américains c'est pas les gars gentils, ils pensent vraiment qu'à eux, America First, c'est vraiment America First.
Oui, mais autrefois c'était voilé et là c'est caricatural. En fait, Trump, il fait office de la vignette du comics dans le journal aujourd'hui. il est dans l'excès et cet excès n'est pas très productif. Par exemple, la course à l'espace, il va démanteler un certain nombre de structures fondamentales pour la recherche, tout en disant on va conquérir l'espace. Les Chinois, ils rigolent, parce que les décisions de Trump vont leur permettre d'arriver les premiers sur la Lune, par exemple. Et on pourrait multiplier ces exemples-là. La plupart des décisions prises par Trump sont positivement idiotes si on pense à l'influence des Américains. Tout le soft power a été démantelé, la capacité à influencer sur, les blocs adverses par les médias, par le financement d'ONG qui recensent les crimes, qui les font remonter, etc. Tout ça est en train de s'effondrer comme un château de cartes et l'Amérique ressortira beaucoup plus faible de la crise de Trump, même si ça aura dévoilé effectivement des processus qui existent. Hein. Les militaires américains ne sont pas des tendres, ils préparaient effectivement un certain nombre de choses susceptibles de renforcer l'hégémonie américaine, mais Trump, à mon avis, va plutôt avoir un effet négatif là-dessus à terme. On verra.
Ah ouais, c'est ce qu'on, moi j'ai lu, c'est que on voit bien que c'est là entre guillemets le dernier cri de la Lalie, de le, on va dire pas les derniers, le chant du cygne, on va dire, d'une Amérique qui est triomphante et qui domine le commerce international. Et on va arriver à partir, je pense que ce sera un marqueur, comme tu l'as dit, il y a des marqueurs dans l'histoire, et c'est la présidence de Trump sera surtout un marqueur qui va passer un avant-après où il y aura l'hégémonie américaine qui sera remise en cause avec la Chine, la Russie et peut-être d'autres pays. Je pense
Oui,
que
enfin, là,
pas
ça peut
remis en cause,
changer en
pas
fait dans
totalement,
l'avenir.
mais je veux dire qu'il y aura un changement dans les dans la géopolitique en tout cas. Alors, d'ailleurs, tiens, si est-ce que par le passé, toi, tu aurais eu des tu verrais dans le passé justement quelqu'un qui ressemblerait à Trump. Est-ce qu'il y a eu par le passé un président qui a été du même style avec ses déclarations tonitruantes? Alors, je parlerai peut-être pas de Benito Mussolini parce que lui aussi, il avait des déclarations un petit peu à l'emporte-pièce avec des programmes qui étaient un petit peu, pff, allez, vas-y, on va faire l'indépendance du pays alimentaire qui était assez, comment dire, décalé de la réalité. Mais est-ce que toi, tu, dans le passé, assez récent, passé, tu te dirais, tiens, il y a un parallèle avec quelqu'un qu'on a déjà vu par le passé pour dire, mais qu'est-ce qui va se passer avec Donald Trump après?
Ça, je sais pas. Enfin, il y a toujours eu des mégalomanes ou des fadas dans l'histoire. Enfin, spontanément, on pense à des gens comme le premier empereur chinois, Qin Wangdi, qui rêvait d'immortalité, qui a envoyé des bateaux à la poursuite des îles des immortels en pensant trouver des pêches d'immortalité, qui s'est gavé de pilules au cinabre, c'est-à-dire au mercure, parce qu'on présupposait que le mercure conservait, voilà, alors que il est
C'est la
probablement
principe.
mort de ça et ça a augmenté ses délires en fait.
Ouais, et
Voilà.
c'est vrai que c'est lui qui a sa fameuse tombe qui est sous une
Oui.
colline avec des rivières de mercure et qui n'a pas été
Alors, le
ouverte.
mercure a disparu, mais
Ouais.
effectivement, il y avait une mer de mercure au milieu de laquelle flottait son cercueil. Ça, c'était l'arrangement initial. Et puis après, le mercure s'est infiltré dans le sol et il a disparu, mais on retrouve les traces. Et c'est l'armée de terre cuite qui comprend 7 à 10 000 soldats à peu près intacts. Sa garde rapprochée dans l'au-delà. Voilà. Bon.
Donc, si tu as un pour toi, la personne qui se rapprocherait peut-être plus, c'est ce fameux empereur chinois
Néron,
avec.
peut-être. On pense
Bon,
aussi à Caligula, Néron, tous les classiques de la démesure. Mais les Romains étaient très critiques aussi de la démesure, dans la mesure où certains auteurs prenaient la tempérance, la maîtrise de soi comme modèle. Et c'est vrai que ces gens-là étaient à l'inverse. De même, en diplomatie, on prône la modération, la maîtrise de soi, les petites remarques assassines. Trump, lui, il arrive avec ses énormes sabots dans le champ des diplomates. C'est complètement surréaliste. Il envoie comme diplomate, d'ailleurs, aux quatre coins de la planète pour régler des conflits, des gens qui n'ont absolument pas les habitus de la diplomatie, qu'on va dire.
ouais, même en France d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Non, mais voilà. Il
Ok.
envoie des gens à son image un peu partout.
Oui, qui ose tout. Plus c'est gros, plus ça passe, on sait jamais.
Ouais. Tu sais
Alors
ce que
juste.
dit Pierre Desproges, il disait des gens qui osent tout.
Voilà, exactement. Alors justement, dans ce qu'on entend souvent dans les discours, enfin moi que j'entends régulièrement, mais c'est mais pourquoi nous on devrait agir? De toute façon, nous, la France, on ne représente que quelques pourcents de la pollution de la consommation mondiale. Pourquoi en fait on devrait commencer? Comment laissons d'abord la Chine, les États-Unis et la France? Pourquoi plus tard?
Bon, il y a deux arguments contre. Le premier, c'est les émissions historiques, on a beaucoup émis par rapport à d'autres. Et puis même les émissions contemporaines, c'est-à-dire que on émet, alors, si on ne prend pas en compte les importations, on émet 9 tonnes de CO2 par personne et par an. Si on prend en compte les importations, on doit être à 11,5. Hein, je le dis de mémoire, si c'est à quelques décimales près. Le truc, c'est que si on voulait être à l'équilibre, ça serait 2 par terrien sur Terre. Donc on est déjà 4 fois et demi, voire 6, presque 6 fois au-dessus de ce qu'on devrait moralement émettre. Il y a de la marge pour réduire et on émet parce qu'on a tout un système qui nous y contraint par les voitures, bien sûr, mais aussi par l'agriculture industrielle. On pourrait mettre beaucoup moins, en plus c'est quelque chose de subventionné, on pourrait mettre beaucoup moins de gaz à effet de serre avec l'agriculture si on reformulait, selon les recommandations scientifiques, tout le secteur agricole, et on vivrait mieux avec ça. Voilà. coup, moi, ma réponse, c'est plutôt on doit continuer à faire des efforts. Le risque, c'est qu'il est très probable que ça ne suffira pas, même ces efforts-là. Mais en tout cas, oui, on a une responsabilité morale, ne serait-ce que de montrer l'exemple au reste du monde, parce qu'on ne peut pas dire tout le monde doit émettre 2, mais nous, on s'autorise à émettre 9,5, et surtout, on interdit aux autres d'acquérir le confort qui va avec des émissions supplémentaires. Donc la réflexion devrait plutôt aller vers comment on vit mieux avec moins. Voilà les champs de réflexion autour de la décroissance, etc. Pour l'instant, ce sont les seuls scientifiquement fondés pour amener une solution qui soit moralement juste aujourd'hui. En tout cas, pour avoir fait le tour de cette littérature, c'est la seule chose qui peut me convaincre. Mais il faut que ce soit un effort collectif. Et ce n'est pas avec des trains qu'on va y arriver.
Ouais, et puis c'est vrai que j'aime beaucoup cette infographie qui montre aussi l'impact du CO2. C'est vrai que, c'est pas que ça. D'ailleurs, c'est dans le livre, tu parles bien des limites planétaires et tu rappelles que le CO2 n'est rien qu'un des éléments. Mais c'est vrai que rappeler que ici c'est hop l'impact du CO2, les États-Unis, la Chine. Tu parlais des fameux 7 tonnes qui sont ici, 7,72 pour la Chine, la France 6,15. Donc en fait, c'est vrai qu'on a un effort à faire, montrer l'exemple, et comme tu dis, l'effet cumulé, comme c'est scientifiquement prouvé, le CO2 a une durée, je crois que c'est 1000 ans, quelque chose comme ça, je sais plus tant que
Alors la
ça.
demi-vie, c'est, je sais plus, je crois que ça reste dans l'atmosphère. Je l'ai écrit en plus, mais j'ai oublié. Je ne sais plus si c'est 12 années pour la moitié, et puis après l'autre moitié peut persister plusieurs siècles, oui. Après, il y a une rotation, voilà. Mais de mémoire, il faudrait que je vérifie. Je ne suis pas sûr que ce
Ouais.
soit 12 ou 100 ans, je ne sais plus.
Mais ça prouve bien que ce que nous avons fait par le passé reste important, et même si maintenant il y a d'autres pays qui font plus d'émissions, on cumule, en fait on a un budget entre guillemets CO2 qu'on a consommé déjà, qu'on a surconsommé, qu'on
Oui.
surconsomme encore, et
Alors,
donc c'est pour ça qu'il faut agir.
il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'en gros, nos émissions de CO2 aujourd'hui, elles sont aux alentours de 40 gigatonnes par an. Donc, ça, ce sont les émissions anthropiques, hein, résultant de notre industrie et de l'émission de la combustion de gaz à effet de serre, de la combustion, pardon, de carburant fossile, mais aussi pour 20% de ce volume-là, de la déforestation et du changement d'usage des sols. Mais la question est, les écosystèmes absorbent entre les océans, les forêts, les zones humides, environ 16 gigatonnes par an en moyenne. Donc, c'est un budget qui est calculé. En gros, on dit, on est 8 milliards sur Terre. On se donne 2 tonnes par habitant et ces 16 milliards de tonnes absorbées par les écosystèmes, c'est ce budget carbone pour le faire court. Ça repose sur l'idée, un, qu'on reste stable, c'est-à-dire que dans 25 ans, on devrait être plutôt 10 milliards. Donc le budget diminue d'autant par personne, premier point. Deuxième point, les écosystèmes sont en train de prendre une sacrée claque. Les forêts absorbent beaucoup moins, c'était divisé par 4 en 20 ans au niveau planétaire. En France, il y a des forêts, et la plupart des forêts sont devenues émettrices de carbone au lieu d'être des absorbeuses ces dernières années, à cause du changement climatique notamment, et surtout à cause de l'impact humain sur la façon
La
de
monoculture.
croître de la forêt, les monocultures, mais aussi la fragmentation des forêts, le fait qu'il y ait moins de vie dedans, ce qui ralentit, voilà. Et conséquemment, tous ces calculs-là, ils reposent sur un postulat qui n'est pas forcément bon, qui est la permanence des puits de carbone naturels. Voilà. Alors, bien sûr, les dirigeants disent, oui, non, mais on va restaurer les puits de carbone, etc. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Voilà. On l'annonce à grand renfort, parfois, on s'occupe d'un bois ou autre chose. Mais franchement, on est dans la mauvaise direction concernant ça. Donc, s'il y a un cri d'alarme, c'est vraiment protéger les forêts, restaurer les forêts, les zones humides, et puis aussi se préoccuper de l'océan, parce qu'on est vraiment sur des carrefours aujourd'hui potentiels, des points de bascule. On n'est pas très loin de points de bascule sur ces paramètres-là.
D'ailleurs, tu parlais qu'il fallait nous sevrer du pétrole. Alors, est-ce que c'est parce que il n'y en aura plus, ou au contraire parce que il faut s'arrêter avant de trop en faire?
Ben, tu sais très bien quelle est la réponse à la question. Il y en a assez pour nous envoyer en enfer si on extrait tout. Et les compagnies pétrolières sont prêtes à le faire parce que Il reste du pétrole. Le pétrole le plus facile d'accès a été progressivement exploité partout, mais il est toujours possible d'en extraire à plus grand coût, donc il suffit d'augmenter le prix. Et tant qu'il y a des gens pour acheter et des structures qui poussent à acheter et à financer, on continuera à extraire du pétrole jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Donc le truc est que c'est une décision politique et j'insiste vraiment lourdement sur le mot politique parce que la palette des possibles, elle est infinie. Les choix dans ces possibles-là, ils sont politiques, ils doivent résulter d'efforts collectifs et de concertations associant le plus possible d'acteurs, à mon sens. Après, voilà. Mais c'est vraiment des questions politiques, donc je pense que tout citoyen devrait vraiment être informé de ces questions-là.
Ouais. Ben justement, page 98, tu dis décroître ou développer. C'est quoi croître avec moins? Est-ce qu'on peut croître avec moins ou faut décroître?
Pour moi, on peut très difficilement croître avec moins. Il y a tout un débat sur les
Ouais.
découplages, etc. C'est quelque chose qui, a priori, on n'a pas d'exemple où ça ait vraiment fonctionné, le découplage absolu. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on continue à consommer autant en Europe qu'avant, mais on a désindustrialisé et en fait, on y a gagné le fait que la pollution est
D'ailleurs.
sous-traitée à la Chine, en gros. Voilà, mais on continue à consommer autant. Et on dit, bah, on continue à consommer autant, mais on a découplé ça des pollutions de l'air. Oui, non, on ne l'a pas découplé parce qu'au niveau planétaire, on le retrouve et c'est même amplifié. Donc, voilà, on doit apprendre à faire mieux avec ce qu'on a. C'est surtout ça, et mieux répartir ce qu'on a. C'est en gros les deux lignes directrices qui devraient présider à la distribution des richesses sur Terre, à la redistribution fiscale déjà à l'intérieur des États, et à la redistribution, comment dirais-je, programmée entre États par la négociation et pas par la guerre. Parce que la guerre est extrêmement destructrice de l'environnement et ne fait que précipiter le naufrage. Donc vraiment mon idée, si on était raisonnable et vraiment conscient, si on était vraiment sapiens, pour le dire clairement, on devrait s'asseoir autour d'une table et s'associer à différentes échelles pour partager. Voilà. Après, vous allez me dire, c'est presque christique ou bouddhiste ou peu importe, mais oui, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment donné à reconnaître les autres et à dire, bon, ben, il y a des injustices, on va essayer de les réparer parce qu'on peut vivre très bien avec moins de ressources. Après, c'est une question aussi de politique, d'infrastructures qui ont été planifiées par ce politique. On a les moyens intellectuels, scientifiques, de connaissances pour le faire. C'est simplement que personne ne s'attaque à cette tâche-là parce qu'on se dit que la seule chose qui fonctionne, c'est la compétition, la lutte, allant jusqu'à la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est donné des armes tellement efficaces que la guerre devient une option franchement, flippante, quoi.
Ouais. Mais
Elle a
c'est vrai
toujours été
que
d'ailleurs, hein. C'est toujours la mauvaise phase de l'humanité, mais voilà.
c'est vrai que ça me rappelle l'Égypte, qui est une civilisation que j'aime beaucoup, parce que vraiment, même des milliers d'années plus tard, ils arrivent encore à nous faire rêver en disant, mais comment ils ont construit les pyramides, même si on commence à avoir des idées sur la partie usage de l'eau. Mais là, actuellement, l'Égypte est encore un pays qui vit le long du fleuve et qui a une agriculture qui est de plus en plus mangée par l'urbanisation. Et en même temps, il commence à avoir des conflits avec les voisins pour justement le contrôle de l'eau, du Nil et tout ça. Ça, c'est un exemple de situations sous tension qui vont arriver, mais pas très loin de nous, en fait. C'est tout à fait proche. Et les Égyptiens sont très, très, très nombreux et les pays aux alentours sont aussi nombreux. Et autour, il n'y a que du désert. Donc, s'il y a un conflit, s'il y a un problème, les gens vont être dans une situation extrêmement délicate, quoi. Même déjà avec l'augmentation du prix du blé, ça a fait des tensions, comme par exemple en Tunisie, où il n'y a pas d'agriculture forte comme au Maroc, et il y a eu ou de pétrole ou de gaz comme en Algérie. Et on peut dire, là, on a un avertissement en fait qui devrait nous dire, hey, attention, il va y avoir un problème quoi, qui va venir. Pardon.
Oui, on pourrait. Il y a plein d'avertissements de cet ordre-là, effectivement, sur les ressources et les tensions autour des ressources.
Alors, il y a une carte également que j'ai bien aimée. C'est celle, en fait, ici, avec la répartition de l'homme et de la population. Donc, ici, on voit tout autour, hop, les hommes. Ensuite, on voit là les animaux d'élevage, avec les bœufs, avec les vaches, les moutons, etc., etc. Et, en fait, au final, on se rend compte qu'il n'y a quasiment plus en fait d'animaux en fait sauvages. Les animaux sauvages ont fortement disparu et réduit. Donc, tu parles tout à l'heure d'effet de cliquet, de point de bascule. Quels sont-ils pour toi? Parce que page 132, t'en as donné quelques-uns. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire vraiment attention? Quels sont les points vraiment où il faut faire attention? Là, tu as parlé de la banquise, tu parles des coraux, tu parles de l'Amazonie, tu parles des pergisol, pergélisol en Russie. Ça, ce sont plein de points de bascule qui sont totalement inconnus.
Il y a une
Inconnus,
grosse
qui peuvent.
littérature,
Enfin,
oui.
où ça peut faire une surprise, on peut se dire, ouais, bon, on a le réchauffement climatique qui va nous arriver, ça va être compliqué, etc., etc. Et là, tout d'un coup, paf, il peut y avoir un point de bascule supplémentaire.
Oui, alors la grosse question en fait, certains de ces points de bascule, ils sont en train d'être passés, mais c'est à des temporalités que l'on a du mal à connaître parce que ça devient chaotique, c'est-à-dire quand ça entre en rupture, ça devient chaotique. Typiquement, le pergélisol, il commence à fondre, ça fait des dégâts en Russie, enfin en Sibérie notamment, parce que c'est une des parties du monde qui se réchauffe le plus vite. C'est valable aussi pour le Canada, mais un peu moins rapidement. Et en très gros, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut mettre énormément de carbone, énormément de méthane, mais il y a des bactéries qui vont jouer un rôle, qui vont soit capter, soit en émettre plus. On ignore ce qui se passe dans ces temporalités. On est en train d'essayer de faire des échelles, de regarder ce qui se passe. Et les situations sont très diverses, en fait, suivant les terrains. Donc, typiquement, personne ne sait ce que ça peut donner. Sur les scénarios de l'extrême, c'est vraiment une catastrophe d'échelle vraiment tellurique. Et sur d'autres, ça peut durer longtemps et ça peut être atténué. Voilà. Du coup, on est vraiment face à une inconnue. L'autre problème, c'est surtout les effets de rétroaction entre les différents points de bascule, parce que certains s'alimentent les uns les autres. Notamment, un des points de bascule les plus inquiétants serait la savanisation de l'Amazonie, parce que l'Amazonie est le véritable régulateur, du climat de l'Amérique latine de façon très forte, hein, peut-être les deux tiers ou les trois quarts des pluies en Amérique latine sont liées à l'Amazonie. Donc, ça serait une aridification très forte, bien au-delà des frontières des pays concernés par la forêt amazonienne, que la progressive savanisation de l'Amazonie. Et l'autre problème, c'est que ça régule une bonne part du climat mondial. Et donc, on aurait beaucoup plus de chocs. Par exemple, il y aurait des chocs en retour sur l'Europe si jamais on atteint ce point de bascule-là. Et jusqu'il y a peu, les études disaient la forêt amazonienne entrera dans un processus de savanisation, de transformation en milieu plus aride, quand on aura détruit à peu près 40% de sa superficie. Et puis, on avait détruit à peu près un peu moins de 20% quand d'autres études ont commencé à dire, ouais, mais la limite, elle est peut-être plutôt à 20%. Et là, bon, pour le faire rapide, on peut commencer à flipper. Mais on est maintenant, on balbutie autour de ces 20%. Le débat n'est toujours pas tranché. On ne sait pas où est le point de bascule. Voilà, c'est vraiment comme un récif du temps de la marine à voile quand on avait mal cartographié. On ne savait pas où c'était. On savait que ça attendait quelque part sous l'eau, qu'on ne le voyait pas arriver jusqu'au moment où on entendait le crack sur le bateau. Voilà, les points de bascule, c'est un peu comme ça. Donc, le mieux, c'est avant de cogner le récif, c'est de réduire la voilure.
C'est vrai.
Malheureusement, enfin voilà, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que pour le Brésil, c'est des histoires très compliquées avec exploitation des forêts, exigence de pays pour avoir plus de soja pour nourrir du bétail ou plus de terres. Voilà, c'est commercialement rentable de déforester au Brésil, et donc il y a des grands propriétaires terriens qui le font contre l'avis du gouvernement, mais bon, c'est toujours que. Localement, c'est toujours compliqué pour certains gouvernements d'imposer leur volonté.
Ben justement, dans ton livre, il y a un chapitre qui est justement cette terre à plus qu'adorer, le monde à plus de 15 degrés. Donc, Plus 4 degrés, j'ai joué un peu l'avocat du diable. Bah, ça va être juste, on va mettre un t-shirt un peu plus longtemps, quoi. On va pouvoir aller à la plage, ça va être cool, quoi. Non, c'est pas ça?
Oui, c'est un peu ça quand on écoute parfois des météorologues, comment dirais-je, sur des chaînes publiques, genre on a annoncé plus 3 degrés sur la France à l'horizon 2100, et ça voudrait dire que certaines villes, alors de mémoire, mais on va dire que Lyon se retrouve aux températures de Tunis, ou c'est ce genre de truc, c'est-à-dire tu te dis, bon, ça va, ça doit être gérable. Ben, en fait, non, parce qu'un monde à 3-4 degrés, on est justement sur des points de bascule tels, on sait que quelque part aux alentours de 3 degrés, l'ensemble des forêts tropicales mondiales est complètement dévasté par la sécheresse, s'enflamme, brûle. Et à ce moment-là, on a de façon permanente un nuage toxique qui recouvre les tropiques et qui affecte de toute façon l'atmosphère dans le monde entier. En très gros, ça veut dire que la moitié de la surface habitable de la Terre n'est plus propre à l'agriculture, tout ce qui est tropique. Elle abrite plus de la moitié de la population mondiale, à peu près 60%, et ces gens-là respirent un air tellement pollué que c'est l'équivalent de plusieurs paquets de cigarettes par jour. Donc ils crèvent de cancer, ils crèvent d'asthme, ils crèvent de... Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, on a de telles tensions que géopolitiquement, même si Lyon est à la température de Tunis, le monde n'est pas du tout le même. Nos frontières ne sont pas défendues de la même façon. Toutes nos ressources vont a priori aux militaires pour conserver le peu qu'on a par rapport aux tensions des voisins, parce qu'on sera dans des situations de survie un peu partout sur la planète. Et donc là, c'est le scénario business as usual. Hein, ça nous projette dans les scénarios d'émissions contemporains. Ça nous projette vers 3-4 degrés de réchauffement climatique à l'horizon de à la fin du siècle. Et ce n'est pas un monde viable. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai voulu donner à travers ce petit papier, c'est qu'il faut tout faire pour l'éviter. Ça ne sert à rien de faire un plan d'adaptation à 3 degrés mondial, 4 degrés pour la France, c'est le calcul, hein, la France se réchauffe un peu, enfin, voilà, se réchauffe un peu plus vite. 4 degrés en France, en plus, ça veut dire 3 degrés sur la planète. À 3 degrés sur la planète, géopolitiquement, on n'est pas dans le même monde et la France ne ressemble pas à la France. Ça, c'est le premier message. Et la survie de chaque humain sur Terre est fortement impactée.
Bah justement, avec ta vision d'historien, est-ce que tu peux nous donner ta vision de ce que sera la France, justement, on va dire à 4 degrés, 3 degrés, parce que on va forcément arriver sur un système totalitaire, on va arriver sur des crises beaucoup plus fortes au niveau de tout ce qui est chaleur, de tout ce qui est pluie en Bretagne, dans le nord, inondations, des gens qui vont plus pouvoir être assurés quand, parce qu'ils seront près des rivières, et il y aura eu une, deux, trois crues et leur maison ne vaudra plus rien. On
Ça, on
parle
y est
avec le
déjà.
réchauffement de l'eau d'avoir 80 cm d'eau. Tous les gens, moi je viens de Bretagne, les gens qui habitent près de la mer avec 80 cm d'eau en plus, qui seront souvent arriverés, qui arriveront lors des tempêtes, lors des marées, etc. Donc ce sera pas tout le temps, ce sera pas juste tac tout de suite. Mais est-ce que tu peux nous dire quels seront, si on se projette 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans quel système on ira? Tu parles d'une société qui sera dominée par les militaires, vers
Alors non, pas
un
forcément. Dans ce que je
totalitarisme.
dis, dans ce
Pas
que je
à la
dis,
dépense
c'est
militaire, excuse-moi.
que oui, par la dépense militaire, voilà. Mais on est déjà presque à ça aujourd'hui par rapport, notamment aux migrations. On a une telle peur irrationnellement boostée par l'extrême droite des migrations que l'on fait à l'échelle de l'Europe, on fait vraiment n'importe quoi par rapport au phénomène migratoire, y compris laisser se noyer les gens en Méditerranée ou financer des pouvoirs franchement malsains pour faire des camps afin de retenir de potentiels migrants en Libye, en Turquie ou ailleurs. Et c'est répugnant. Bon, bref, ça c'est le premier point. Je ne sais pas à quoi ressemblera le monde dans ce scénario-là. La science-fiction l'a un peu exploré. Je pense à un livre qui s'appelle La fille automate. Alors ça se passe pas en France, mais ça se passe en Thaïlande. Mais ça donne une assez bonne idée d'un monde qui a réagi, qui s'est adapté à quelque chose qui est un monde à 3-4 degrés. C'est bien
Et
fait,
qu'est-ce qui
c'est
se
bien
passe alors? Parce
réaliste.
que je n'ai pas lu ce livre-là. La fille automate, ça a l'air assez poétique quand tu le dis.
Oui, La fille automate, c'est très poétique. Bah, je recommande de le lire, c'est un auteur. Alors, je vais peut-être écorcher son nom, Bassi Galuppi, c'est d'origine italienne, mais l'auteur est américain. Et c'est vraiment un très bon livre sur la représentation de ce à quoi pourrait ressembler un monde hors de contrôle. Voilà. Parce qu'à 3-4 degrés de réchauffement, on est sur un monde hors de contrôle. Il faut l'éviter. En fait, la science-fiction, on l'a déjà abordé. Ça donne pas envie d'y aller. C'est très réaliste. Et il faut l'éviter. Voilà, ça c'est ma recommandation. Je ne vais pas forcément perdre mon temps toujours à imaginer ça, parce que voilà, ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui est important, c'est de convaincre collectivement qu'il faut tout faire, et ça commence par le politique, pour ne pas en arriver là, parce que ce serait vraiment la pire erreur de tous les temps pour moi. Voilà, il n'y a pas photo. Donc, l'intérêt, c'est plutôt de réfléchir à comment on fait. Sinon, également, je signale que on n'est pas forcément dans une dictature. Ça serait la tendance naturelle du business as usual, progressivement dire qu'il faut un pouvoir fort pour faire face à une situation d'exception, etc., renforcer. Et avec l'IA, avec les moyens de surveillance, avec ci, avec ça, on commence à accumuler largement plus que nécessaire pour avoir des sociétés de contrôle qui fasse ressembler la Stasi à une blague. Bon. Mais passer ce truc-là, ça repose quand même sur de la technologie. Et tout ça peut se briser, s'effondrer. Si on n'a plus d'énergie, par exemple, la technologie, elle reste inerte. Voilà. Pas d'Internet, pas de vidéosurveillance s'il n'y a plus d'électricité. Donc après, on peut toujours faire un peu d'électricité ici et là, alimenter ce qu'on estime être primordial, dire la télésurveillance est prioritaire sur l'hôpital, blablabla, mais ça n'a qu'un temps. Passé ça, on entre dans les scénarios qui ont été travaillés par certains penseurs de la collapsologie, collapsonocie, peu importe comment on appelle ça. L'idée qu'en fait, au-delà, on peut construire des communautés résilientes avec du low-tech, autonome. Voilà, il y a aussi de la science-fiction qui travaille ça. Hein. Je pense à Utopia de Camille Le Boulanger, par exemple. Voilà. Donc, le futur, il n'est pas fixé. On peut dire oui, sur un scénario business as usual, on peut partir vers une dictature qui rationne les ressources énergétiques, nourriture, liberté. Mais on peut partir sur complètement autre chose et probablement tout ça va coexister un temps avant que certaines formes ne l'emportent, quoi. Donc du coup, j'ai pas de pronostic, tout est ouvert. Ce dont je me méfie, c'est des gens qui disent ça c'est fixé, les réactions de telle ou telle société, on va vers ça, on va vers ça, on va vers ça. Il n'y a pas de déterminisme en la matière. Le déterminisme, il est dans la capacité de notre espèce à extraire des ressources et à résister à de la chaleur. Le déterminisme, il est, s'il fait 50 degrés dehors, et même si on n'est pas loin de 0% d'humidité, votre corps, il est à l'extrême limite de son endurance, et il va payer, il va avoir des séquelles, et si vous faites des efforts, vous risquez d'en mourir. Ça, c'est une limite, on ne négociera pas avec, sauf peut-être à changer la génétique de l'être humain, sans quoi je ne crois que très modérément. Voilà. Donc, c'est franchement, on a encore un peu de marge. Il faudrait exploiter cette marge pour prendre du recul, ralentir et dire, OK, on se réunit autour d'une table, on discute. Ça commence par le politique. Encore une fois, si c'est un message. Voilà.
Justement, est-ce qu'il pourrait y avoir comme ça un phénomène qui pourrait changer les choses, comme par exemple Gandhi en Inde, qui a quand même été, qui a eu un impact en fait sur le destin du pays. Est-ce qu'il nous faudrait un nouveau Gandhi qui nous explique, qui joue son rôle de messie? Est-ce que ça peut avoir, est-ce que ça peut jouer quelque chose? Est-ce que ça, c'est une hypothèse qui pourrait arriver?
Oui.
Alors, j'en suis pas sûr parce que.
Alors, Gandhi n'était pas seul. Il y avait plusieurs autres leaders nationalistes, chacun avec son programme, Nehru et compagnie. Je vais pas refaire l'histoire de l'Inde. Et surtout, il avait des masses derrière lui. C'est-à-dire que quand Gandhi a dit, bah, je voudrais que tout le monde tisse, et puis il a commencé à tisser pour réintroduire une industrie du tissage dans l'Inde, eh ben, c'est parce que des millions de femmes se sont mises à tisser que Gandhi a été écouté. Voilà. Alors, moi, je ne crois pas forcément à la figure de l'homme providentiel. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'imposent comme leader, qui incarnent quelque chose, qui peuvent aller en prison. Hein, c'était le cas de Gandhi. Voilà.
Mandela, par exemple, aussi.
Mandela et d'autres, et qui font changer les choses, mais c'est parce qu'ils sont suivis, écoutés. Voilà. Ce sont des collectifs. C'est-à-dire, on retient vraiment une figure parce que c'est plus facile à retenir. Mais il faut soulever une adhésion, il faut emporter. Voilà. Et souvent, ce sont des collectifs aussi qui sont derrière, voilà. Donc oui, Gandhi est un exemple possible. Après, Gandhi a joué sur une multitude de registres, hein. Le droit, il était avocat. La culpabilité coloniale, hein, elle existait, elle est devenue de plus en plus forte. La mobilisation à travers des figures dans lesquelles tous les Indiens se reconnaissaient, qu'ils soient musulmans, hindous, jains, voilà. D'autres leaders comme Ambedkar ont embarqué les intouchables dans ce mouvement. Enfin voilà, il y a eu une sorte de soulèvement d'ensemble et c'était quelque chose de collectif. Voilà. Et ça n'empêche en rien qu'il y a eu de la casse, par exemple, le déplacement de population musulmane, hindoue, les échanges de population entre
Entre 5, c'est
Pakistan,
ça?
Inde et futur Bangladesh, c'est 5 millions de morts quand même, hein, de déplacés et suite aux violences diverses. Donc, il y a eu de la casse. Ça ne se passe jamais de manière harmonieuse et il faut être prêt à l'assumer.
Bah, de toute façon, dès qu'il y a des gros phénomènes qui sont, comme tu l'as dit, c'est une question de temporalité. Si tu te laisses le temps d'anticiper, c'est pas la même chose que gérer dans l'urgence où finalement il y a des choix qui sont faits et forcément des mauvais choix. Mais donc, pour revenir à notre sujet de 4 degrés, est-ce que des zones comme la Bretagne ou le Nord seront privilégiées par rapport au Sud qui, comme tu dis, va devenir désertique? C'est un petit peu ce que l'on voit dans ta carte. Est-ce
Les cartes
que tout le
semblent
monde va se
faire
dire,
un
hey, je vais
romancier.
partir en Bretagne parce que je vais survivre à l'apocalypse qui va venir?
Alors, Perrin a un
Bah, tu
petit
as raide, hein, c'est
tropisme.
pour ça que je précise.
D'accord. Perrin a un petit tropisme breton dans la mesure où il habite Brest. Non, je le taquine. C'est lui qui a fait les cartes, on en a discuté, mais il a vraiment choisi les cartes et les données qu'il utilisait. Alors, par rapport à la montée des eaux spécifiquement ou à l'aridification. Effectivement, le sud de la France va s'aridifier, il est déjà en cours, hein, et les conditions de production agricole notamment vont changer, ça va s'assécher, il y aura moins d'eau, quoi qu'on fasse, il faudra faire avec, ça veut dire adapter les cultures, etc., et les modes de culture, ça veut dire aussi multiplier les haies, les arbres, les éléments qui permettent de conserver un maximum d'eau dans les écosystèmes. Bon, ceci étant dit, je ne sais pas, je ne suis pas météorologue et je ne suis même pas sûr que les modèles météorologiques ou climatiques soient capables de le prédire vraiment bien avec certitude, comment le climat va vraiment évoluer, passer 2 degrés de réchauffement. Je veux dire, on est aujourd'hui à 1,5, c'est presque validé, d'ici 10 ans, ça sera validé. À l'échelle géologique, c'est rien, c'est un clin d'œil, c'est ultra rapide. Pour donner une échelle, le dernier changement climatique, certes, on s'est réchauffé de 4 degrés, mais ça a pris plus de 6 000 ans. Là, on va le faire en un siècle, on est parti pour le faire en un siècle. Donc, les réchauffements d'antan, ils ont déjà eu des conséquences profondes, lentes. La mer est montée, elle a submergé des civilisations, des terres, elle est montée de 120 mètres, c'était entre moins de 18 000 ans et moins de 12 000. Elle a continué à monter après. Là, c'est beaucoup plus rapide, même si certaines conséquences comme la montée des eaux va continuer à prendre des siècles. Il y en a d'autres, l'aridification des terres, on va se la prendre en direct du comprimé en un siècle de ce qu'on aurait dû se prendre en 6 000 ans si on avait vécu il y a 15 000 ans. Voilà. Non, c'est juste pour relativiser le truc, c'est que personne ne sait ce qui va se passer en bordure de mer aujourd'hui. On annonce entre 50 cm et 1 mètre de montée. Il y a des données qui sont plus inquiétantes et où les montées des eaux pourraient être plus fortes et plus rapides. Et à la limite, ce n'est pas forcément plus important parce qu'on imagine la montée des eaux comme progressive, comme une baignoire qui se monte, etc. En fait, non, la mer ne change pas trop, ce n'est pas très visible. Et puis un jour, il y a une forte marée. Il y a un événement climatique extrême de type tempête, voire cyclone. On n'est plus très loin dans le golfe du Gascogne aujourd'hui sur la température de surface de l'océan. Et à ce moment-là, la mer est soulevée. Elle rentre à l'intérieur des terres. Elle est soulevée par la gravitation. Elle est soulevée par la dépression de la tempête. Et elle rentre comme un bélier. Elle peut être soulevée d'un mètre, de 2 mètres, jusqu'à 6 mètres. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a enregistré dans le golfe du Mexique ces dernières décennies. Et contre ça, on ne sait pas se protéger. Et c'est aléatoire, c'est-à-dire on ne peut pas anticiper où est-ce que ça va se passer. Voilà. Donc la montée des eaux, ce n'est pas un phénomène linéaire, c'est donc quelque chose qui peut être ponctuellement très 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 violent.
Ah,
C'est
mais
pour
j'ai
ça
vu
qu'on
hein,
va
que
progressivement
mes parents
abandonner
habitent.
les côtes.
Ah ouais, bah je même mes parents habitent à Fouesnant, qui est juste à côté de Concarneau, Bénodet, etc. Et c'est vrai que une grande partie de la côte du côté de Mousterlin, il y a de l'enrochement qui a été fait. Et donc, c'est une muraille de rochers, quoi, qui doit faire peut-être 3 mètres de haut ou 4 mètres, enfin, je ne sais pas. Et donc, tout le long de la côte, il y a ça, c'est bétonné. Puis à un moment donné, bah, ils ont arrêté. Et c'est là maintenant que, quand il y a des grosses tempêtes, il y a la mer, des fois, qui rentre. Et en fait, on voit bien, toute la végétation est grillée, puisque le sel est rentré. Et en fait, y a plus de racines, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que là, je sais que le maire se posait des questions, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de prolonger? Mais le problème, c'est que si on prolonge plus, bah, l'eau va déborder après. Comment on peut faire, quoi? C'est très
Alors,
compliqué.
l'une des meilleures façons de pallier ça, c'est la renaturation. Il faut abandonner aux dunes avec des plantes qui résistent au sel. Il faut aussi, si possible, enlever les barrages des rivières les plus proches pour que les sédiments arrivent et alimentent les plages. Et puis, une autre solution, c'est de construire des récifs au large, de favoriser l'implantation, par exemple, de coraux, de protéger des zones comme ça, pour les zones que l'on veut protéger. Aujourd'hui, la renaturation reste une solution beaucoup moins étudiée que de mettre des digues, des enrochements, etc., alors qu'il est très clair que c'est beaucoup plus efficace. Et comme le monde se tropicalise, à terme, je n'exclus pas qu'on rajoute même de la mangrove quelque part, hein, en France du Sud en tout cas, ça sera probablement envisageable au cours du siècle. Mais tout ça, c'est à réfléchir, c'est à étudier, mais franchement, les solutions basées sur la nature sont souvent nettement plus efficace que les
La
solutions
technologie.
techno et plus durable en tout cas.
Alors, on est quasiment arrivé à la fin de notre entretien. Y a deux points qui sont importants. C'est le premier, c'est comment les entreprises peuvent s'adapter et pourquoi il faut décrédibiliser les marchands de doutes, comme tu dis, page 153 de ton livre.
Bon, ça, c'est une question purement politique, c'est-à-dire on a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer d'expliquer, de convaincre les marchands de doutes, les climato-sceptiques, etc. Ils sont comment dirais-je, enfermés dans une bulle cognitive au service d'intérêts spécifiques qui veulent qu'on continue à extraire du pétrole ou à balancer des pesticides partout. Et ça, vraiment, ce que la science nous rapporte, c'est que c'est aux antipodes du bien commun. Donc, pour moi, humainement, combattre ou même ignorer, je pense que voilà, le dicton qui sur Internet veut qu'on ne nourrisse pas les trolls, je pense qu'il s'applique aussi dans la vie commune, c'est-à-dire voilà,
Ne pas perdre trop de temps à essayer de
ne
débattre avec
pas
des gens
perdre
qui.
trop. Bah, on a aujourd'hui un truc qui est formidable d'énergie, c'est la science de l'attribution, c'est-à-dire que depuis que les climato-sceptiques existent, les climatologues se sont acharnés à essayer de calculer, parce que c'était très compliqué, quelle était la part de responsabilité du changement climatique dans tel ou tel événement extrême climatique. Et c'était quelque chose qui était totalement inconnu parce qu'extrêmement difficile à calculer. Et donc on leur disait, ouais, mais cette tempête-là, qu'elle soit arrivée maintenant, ce n'est pas lié au changement climatique. De tout temps, il y a eu des tempêtes. Donc il a fallu qu'ils calculent la fréquence des tempêtes, l'antisséisme. Et après, on en arrive à des trucs aujourd'hui où la science de l'attribution dit, tel cyclone a été rendu 40 fois plus probable par le
Par
changement
changement
climatique,
climatique.
voilà, pour son occurrence. Super. D'un point de vue mathématique, c'est vrai que les mathématiciens, ils sont là, ils sont sidérés, ils disent, oh, mais on n'imaginait pas que c'était autant, c'est magnifique, puis c'est une prouesse de calcul, etc. Mais qu'est-ce qu'on perd son temps avec ça? Enfin, je veux dire, j'admire les gens qui font ça, mais ça serait mieux employé que pour avancer des débats avec des gens qui, comme Trump, n'ont que des arguments fallacieux et les répètent en boucle dans des cénacles.
Fake
Voilà, non, non, mais. Voilà, et aujourd'hui, on a recours à l'IA pour propager ce genre de trucs, que ce soit dans les fermes à trolls russes, que ce soit sur X avec Grok et Elon Musk. De grâce, enfin, je sais pas, c'est même pas intéressant de répondre à ces gens-là.
c'est vrai. Alors, la dernière question, c'est comment les entreprises doivent s'adapter? Et ce sera vraiment les dernières secondes. C'est vrai que c'est ce que
J'ai
tu en dis, page 152, c'est une
devenu riche si je
page.
trouve la solution à ta réponse, enfin, si je trouve la
Parce
réponse
qu'une
à ta
entreprise est
question.
faite pour justement répondre à de la demande. Tu parles en fait de faire de l'économie circulaire, de travailler sur les conceptions.
Ouais.
Quelque part, une entreprise, elle est faite pour avoir des consommateurs, pour vendre.
Totalement d'accord. Pour moi, c'est encore une fois politique, c'est-à-dire que les États doivent imposer des normes qui soient les mêmes pour toutes les entreprises sur toute la planète, qu'elles jouent dans le même jeu, pour l'intérêt commun. C'est-à-dire que ça ne se fera pas spontanément du côté des entreprises, ça devra être cadré. Je ne dis pas contraint, cadré, imposé pour le bien commun, un certain nombre de règles du jeu. Parce que les ressources planétaires sont limitées, il faudra imposer un extractivisme, comment dirais-je, calmé, cadré. Voilà. Et ça doit se faire à l'échelle planétaire, c'est mal barré. Mais je pense que s'il y a des chocs vraiment violents, les États se mettront autour de la table et diront « Ok, on va calmer nos entreprises ».
D'accord.
Mais et je n'attends pas des entreprises qu'elles le fassent spontanément. Il y a quelques patrons qui s'y mettent, évidemment, mais pour l'instant, c'est de l'ordre du cosmétique.
D'accord. Bah, merci pour cet échange. Donc, si
merci,
vous souhaitez
Frédéric.
acquérir le livre, bah, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, Fnac, etc. Donc, paru chez Armand Collin, prix 26,90. Donc, c'est un beau bouquin parce qu'en fait, 160 pages, en plus, bah, des cartes vraiment bah, en couleur. Vraiment, certaines vraiment très très lisibles et qui permettent justement de se rendre compte des phénomènes à venir et des défis qu'on va devoir affronter dans les années à venir. Donc avec à chaque fois donc la carte et puis le petit commentaire qui permet d'expliquer, qui permet de comprendre en fait quels sont les défis, les enjeux. Donc ça c'est assez facile à lire, même si quelqu'un qui n'a bah, qui n'a pas encore de prise de conscience particulière, mais je trouve qu'il arrivera à trouver les informations essentielles avec ici la carte et enfin les cartes, les infographies et les textes juste à côté. Bah, merci en tout cas pour ce livre. Et puis rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau livre. Alors c'est quoi le prochain ou les prochains ouvrages qui vont sortir te concernant?
Je prépare une histoire du vivant pour Actes Sud.
D'accord. Et ça sera disponible fin d'année?
Ça sera l'année prochaine. Non, pas fin d'année, l'année prochaine.
L'année prochaine. Bon, bah, on reste en stand-by. Et puis encore merci pour ce livre et aussi à ton co-auteur, hein, Perrin Remonté. Merci.
Merci Frédéric.
À bientôt.
À bientôt.